RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc que j'agis. On a parlé de la campagne. Et bon, on va s'intéresser à la ville tout de suite. Et on va faire le focus sur les centres-villes qui parfois manquent de dynamisme. Et notamment dans les commerces. Et ça a de quoi inquiéter. Alors on va voir jusqu'à 11h quelles clés on peut trouver pour essayer de redynamiser les centres-villes. Et puis on va essayer de comprendre aussi pourquoi on en arrive à certaines situations compliquées où les commerces ferment tout simplement. On va en discuter avec nos invités. Si vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages, vous habitez en ville, est-ce que vous avez l'impression que votre ville manque de dynamisme? Qu'est-ce que vous constatez vraiment sur le terrain? Alors même question, si vous êtes commerçant dans une ville, grande ville ou ville moyenne, hein, bien sûr, c'est le cas pour chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que c'est compliqué pour vous d'être commerçant en 2024? Venez témoigner au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23, vos mails à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, deux invités que je vous présente tout de suite. Bonjour Sylvie Giberg.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à Je pense donc j'agis. Vous êtes paloise, ça veut dire que vous habitez à Pau. Vous êtes administratrice du collectif des habitants et commerçants de Pau parce que bah, vous êtes commerçante. Vous avez un commerce qui s'appelle le Gantelet du Roi. Qu'est-ce que vous vendez, Sylvie?
Alors, dans mon commerce, bah, je vends des...
Ah, petite coupure avec Sylvie Giberg qu'on va rappeler par téléphone, comme ça il y aura une liaison assez stable. C'est pas grave puisque notre deuxième invité nous a rejoint, c'est vous David Lestoux, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de vous être connecté à Je pense donc j'agis. Vous êtes rédacteur d'un rapport national sur les centres-villes qui a donné naissance à un programme qui s'intitule Action Cœur de Ville. On va en parler. Vous êtes aussi fondateur d'une agence, une agence de centre-ville et du commerce de demain qui s'appelle LA ou LA d'ailleurs, je sais pas comment on prononce.
Plutôt agence LA, effectivement.
Voilà,
comme
l'agence.
Comme Lestoux et associé.
Voilà, LA. Donc ça, c'est bien noté. Qu'est-ce qu'il se passe dans les villes, David Lestoux? Qu'est-ce que vous avez pu repérer?
Alors, ce que j'ai pu repérer par rapport à la question que vous posez sur les centres-villes, c'est que, on a une caractéristique en France, c'est qu'on parle beaucoup des centres-villes. On est certainement le pays d'Europe qui avons le plus de politiques publiques en faveur des centres-villes. Nous sommes aussi le pays d'Europe où il y a le plus d'émissions, il y a le plus dans la sphère médiatique de questions sur les centres-villes. Mais nous sommes aussi le pays d'Europe qui, en termes d'aménagement du territoire, faisons au quotidien à peu près le contraire de ce qu'il faudrait faire pour que les centres-villes fonctionnent. Alors c'est en train de changer, bien heureusement, mais on sort finalement d'une quarantaine d'années, voire une cinquantaine d'années d'aménagement d'une France périphérique, c'est-à-dire on a sorti l'habitat des centres-villes, on a sorti le commerce des centres-villes, on a sorti les services médicaux, etc. des centres-villes. Et finalement, on s'étonne après que les centres-villes perdent de la vigueur, mais oui. Il faudra aussi qu'on s'interroge, comme l'on fait déjà depuis très longtemps d'autres pays européens, sur est-ce que c'est une bonne chose que cette périphérisation continue à s'accélérer.
Ce programme Action Cœur Ville, il a pour but notamment d'améliorer, bien sûr, la condition de vie des habitants, des villes, les grandes villes, villes moyennes aussi. Et puis aussi de montrer à quel point les villes ont un rôle dans le développement des territoires. Ça, c'est une conviction peut-être personnelle pour vous?
Alors, c'est à la fois une conviction personnelle. C'est à la fois aussi... J'allais dire une urgence, mais tout au moins un choix d'aménagement du territoire qui est éminemment stratégique pour demain au regard des évolutions sociologiques. On aura plus que jamais besoin d'un centre-ville, c'est-à-dire de lieux de convivialité demain, parce que les évolutions sociologiques, je prends, en France, on aura 35-40% de la population qui aura plus de 60 ans en 2035. C'est pas la France périphérique qui va répondre à ce besoin de sociabilisation, ce besoin de service. Les nouvelles générations, ce que j'appelle moi la génération Z, celles et ceux qui sont nés après 96, qui ont des logiques de déplacement très différentes, avec moins le permis de conduire, moins la voiture personnelle. Et donc, on va avoir besoin de cette maille territoriale essentielle qui est le centre-ville. Donc oui, c'est une conviction, mais oui, c'est un besoin d'aménagement du territoire. Et puis, je me rends compte aussi, en accompagnant un grand nombre de villes qui ont fait le choix d'inverser cette tendance de périphérisation, engagée dans Action Cœur de Ville. Eh bien, ça marche. Lorsque la stratégie est là, lorsque la volonté politique est présente, eh bien, on arrive à inverser la tendance et à refaire battre le cœur des villes.
Depuis quand on l'observe, cette crise qui touche notamment les centres-villes? Est-ce que c'est depuis le Covid qui est venu vraiment bouleverser quelque chose, ou ça a commencé un peu avant?
Ah non, je dirais que le Covid est venu bouleverser les choses, mais depuis le Covid, on note quand même un regain d'attractivité des centres-villes.
Oui.
Donc, pour moi, la période de dévitalisation des centres-villes, c'est globalement la période 90, 2015, 2016. Depuis 2016, 2017, depuis le plan Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain sont des villes de taille inférieure, on note une repolarisation des centres-villes. Ce qu'a changé le Covid, véritablement, c'est des modes de consommation. Mais qui touche à la fois les galeries marchandes de périphérie, qui touche à la fois des groupes de distribution, regardez le groupe Casino, et qui touche effectivement des linéaires de centre-ville, puisque depuis le Covid, ce qui a changé sur le commerce, c'est une part de marché du commerce digital qui s'est accrue.
Oui.
Mais pour autant, il y a des fermetures d'enseignes dans l'équipement de la personne, par exemple, mais on a aussi une vraie vitalité du commerce alimentaire de centre-ville, on a une vraie vitalité des cafés et des restaurants. Simplement, peut-être que demain, pour des questions commerciales, on viendra, pour d'autres motivations, faire en centre-ville, moins faire des achats classiques, mais plutôt profiter de la convivialité.
On a retrouvé Sylvie Giberg avec un son qui va se maintenir, j'espère, jusqu'à 11h. Sylvie, je rappelle que vous habitez à Pau, vous êtes administratrice du collectif des habitants et commerçants de Pau. Vous êtes vous-même commerçante avec un commerce qui s'appelle le Gantelet du Roi. Et je vous posais cette question avant que ça coupe tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vendez ?
Oui, alors je vends des accessoires. Hein. Le Gantelet du Roi, à l'origine, c'est une boutique de gants. Et bien sûr, j'ai beaucoup diversifié. Hein. Moi, je suis commerçante depuis 25 ans. Donc, en 25 ans, ça a beaucoup évolué. Puis là, ça va très vite. Donc, j'ai beaucoup diversifié mon activité, toujours dans l'accessoire, foulard, béret, chapeau, parapluie. Le fil conducteur, c'est la fabrication française et le produit de qualité. Et depuis 2 ans, je me suis lancée dans la vente seconde main et je fais uniquement un produit très spécifique, ce sont les sacs seconde main.
Voilà, donc ça c'est vraiment pour le Gantelet du Roi, donc votre commerce, et s'il y a des habitants de Pau qui nous écoutent ce matin, peut-être que vous connaissez. Vous constatez, et c'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin, Sylvie Giberg, un manque de flux de population, vous, dans le centre-ville de Pau.
Alors, comme on l'expliquait, effectivement, on a subi différentes crises. La dernière crise Covid, on a été quand même très soutenu, hein, dans les commerces. Pas tous les commerçants n'ont pas pu en bénéficier, mais beaucoup en ont bénéficié. Et on a eu effectivement un regain d'activité après le Covid, un changement d'habitude de consommation aussi. Hein. Les boutiques de proximité sont un peu plus fréquentées parce que effectivement, je crois que les gens se sont rendus compte que la proximité, c'était important. Hein. Quand on se promenait pendant le Covid dans un centre-ville sans commerce, on s'est bien rendu compte que effectivement, c'était bien triste. Et une ville, un centre-ville sans commerce, c'est la mort du centre-ville. Hein. Ça participe à l'animation de la ville, au lien social. On l'a vu pendant le Covid. Moi, je faisais du click and collect. Ben, parfois, ça m'arrivait d'offrir un café à une personne qui passait parce que les gens étaient quand même très isolés et très esselés. Donc, c'est du lien social. Le commerce également, c'est une activité économique, bien entendu. Donc, après le Covid, on a eu un regain, effectivement. Et là, on est à nouveau un peu à la peine parce que ça s'essouffle. Et puis, surtout, on a cette crise du pouvoir d'achat, de l'inflation, qui nous marque beaucoup, et puis les mauvaises nouvelles internationales qui font que, effectivement, les clients sont un peu moins enclins à consommer. Et puis, on a certainement une spécificité à Pau également, c'est un manque de flux, un manque de dynamisme, et on bénéficie, nous aussi, à Pau, hein, de l'opération Cœur de Ville. Je crois qu'on en est à 200 millions d'investis dans le centre-ville, avec de grosses rénovations comme les halles, le foirail, des gros pôles d'activité et d'intérêt de centre-ville. Oui. Malgré tout, alors il y a eu une amélioration, certes, en 2022, début 2023, 3, et puis là, à nouveau, crise nationale des grandes enseignes. Hein, on voit des grandes enseignes qui tombent petit à petit, comme un château de cartes. Et ça se... Voilà, il y en a une par-ci, une par-là. Nous, on a eu Burton récemment, hein, une grande enseigne de centre-ville, Darrel récemment, qui a fermé. Après, bien sûr, Contour des Cotonniers, des enseignes qui sont touchées au niveau national, mais aussi des enseignes qui quittent les villes, hein, ce sont des succursales, et qui préfèrent mettre des franchisés. Et c'est vrai que, visiblement, Pau n'attire pas forcément des franchisés. Et de toute façon, est-ce que c'est bien d'installer des franchisés dans une ville qui manque de dynamisme? Voilà, c'est la question
que
je pose.
Ouais, c'est très intéressant et ça donne vraiment un aperçu de ce qu'il se passe à Pau et ce qu'il doit se passer, David Lestoux, dans d'autres villes. Hein. Je pense que c'est un schéma qui doit vraiment exister dans d'autres villes en France.
Oui, c'est un schéma qui existe dans d'autres villes en France, mais plusieurs choses effectivement très très intéressantes qui viennent d'être dites. Le gantelet du roi, j'ai eu l'occasion moi de travailler il y a quelques années sur Pau et je localise très très bien le commerce. Je crois que c'est intéressant, c'est de dire on a là un commerce qui va sur des niches d'activité, c'est-à-dire du made in France, de la consommation responsable, qui va sur de la seconde main. Je crois que ce qu'il faut retenir aussi, c'est cette évolution là, ce choix qu'a fait madame et qui est vraiment dans les tendances de consommation. Et je crois que c'est assez intéressant et c'est ça aussi qui permet à son commerce de fonctionner, c'est de saisir cette transformation du commerce. Juste un petit point quand même sur la consommation de seconde main. Avant la crise sanitaire, la consommation de seconde main sur le prêt-à-porter, les accessoires de mode, c'était 1% des dépenses des ménages en France. On est passé à 6-7% aujourd'hui et on peut estimer que dans les 3-4 ans qui viennent, on sera à 15%. 15% des dépenses sur ce secteur-là, ça fait l'équivalent du chiffre d'affaires de Zara et H&M. Vous voyez? Ah oui. Donc c'est une transformation importante. Donc ça, c'est le premier point que je retiens. C'est aussi un message compliqué, certes, de changer quelquefois les manières de faire, mais ce que vient de dire madame, c'est un exemple sur comment je saisis les transformations de la consommation. Ensuite, sur le sujet des grandes enseignes. Et ces grandes enseignes, elles sont chahutées par deux éléments. Premier élément, c'est que ces grandes enseignes, elles ont fait de l'omnicanal, c'est-à-dire du digital et du commerce physique. Et à un moment, eh bien, elles rationalisent, malheureusement. Oui. Et je crois que, et d'ailleurs, c'est assez intéressant, tous les ans, au mois de mars, il y a le salon de la franchise. Quand vous allez au salon de la franchise en 2024, vous n'avez quasiment plus de commerce d'équipement de la personne qui viennent proposer leur concept de franchise, parce que peut-être qu'on aura la franchise d'équipement de la personne, d'équipement de la maison, qui sera certainement beaucoup moins présente dans les centres-villes demain, mais et dans les galeries marchandes, beaucoup moins aussi. Ça, c'est un élément important. Donc, il va falloir réinventer. Ça laisse de la place pour le commerce indépendant, à condition, comme madame, qu'il soit différenciant, ce commerce-là, et qu'il va falloir qu'on rentre dans cette nouvelle logique. Et puis, effectivement, madame parlait d'Action Cœur de Ville, qui est un outil qui donne de bons résultats. Simplement, ça peut être sur un temps long. C'est la question du temps.
C'est pas
court terme. Quand on, comme la ville de Pau ou de nombreuses autres villes, investissent pour requalifier le logement en cœur de ville, bien c'est un temps long. Mais c'est essentiel parce que l'une des problématiques du commerce de proximité dans les centres-villes, ça a été l'insuffisance de clients de proximité. Dans tous les centres-villes des villes moyennes, on a 10, 15, 20% des logements qui sont vacants. On donne pas suffisamment envie de vivre les centres-villes. On vient en centre-ville souvent dans les villes moyennes par défaut plus que par choix. Et donc, il va falloir repenser les stratégies d'habitat, mais c'est un temps long. Et donc, il y a ce delta à travailler.
Ce qu'on entend, c'est qu'il y a plusieurs facteurs vraiment différents hein, qui peuvent expliquer ce manque de dynamisme, l'essoufflement, comme disait Sylvie Gibert il y a quelques instants. La transformation des modes de consommation, ça c'est un peu inéluctable, on peut pas faire grand-chose parce que ça dépend aussi de la société. Par contre, le pouvoir d'achat, ça c'est quelque chose qui est relativement récent, on va dire, depuis 2022, à peu près depuis le début de la guerre en Ukraine. Il y a quelque chose qui est venu vraiment bouleverser le pouvoir d'achat. Ça a un impact majeur, David Lestoux, d'après vous, pour les habitants qui veulent moins consommer ou consommer différemment?
Oui, effectivement, il y a un vrai changement. On sort finalement d'un développement du commerce depuis des décennies dans « je consomme toujours plus » et dans la segmentation qu'on peut faire de la population française. Nous, on avait tendance à dire qu'on avait 50-60% de la population qui est dans une démarche, ce qu'on appelait le segment des compulsifs « je consomme toujours plus ». Et puis, depuis la crise sanitaire, il y a un vrai changement. Crise sanitaire, crise énergétique, etc. On va retrouver une nouvelle segmentation. Les compulsifs qui portaient le commerce ne représentent plus que 25% de la population. Et puis on a vu apparaître les contraints, à peu près un quart de la population qui est dans une forme de déconsommation subie. Donc là, on a vraiment une problématique de pouvoir d'achat. Et puis, on a vu émerger depuis la crise sanitaire un nouveau segment que nous, on appelle les « less is more ». Celles et ceux qui se sont rendus compte pendant la crise sanitaire qu'ils étaient heureux en consommant moins.
Oui.
Ils représentent 20% de la population.
Avec une forme de sobriété.
Ouais, c'est ça. C'est pas une problématique de pouvoir d'achat, c'est une problématique de vouloir d'achat. D'ailleurs, ça, c'est intéressant. Parce qu'on parle beaucoup, et à juste titre, du pouvoir d'achat, mais de l'autre, l'épargne des Français n'a jamais atteint des niveaux aussi élevés. Donc, l'enjeu aussi pour le centre-ville, l'enjeu pour les commerçants de centre-ville, ça va être, par les offres qui soient adaptées aux nouvelles tendances de sobriété, de donner envie, à ces lessismores de consommer. Et de consommer plus durable, de consommer plus responsable. Donc on va avoir une transition à faire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est que les enseignes qui ferment aussi, ce sont des enseignes qui avaient très peu capté ces nouvelles tendances de consommation sur le plus durable, sur les transitions. Et donc, on est là sur un changement de modèle commercial qui s'ajoute à un changement de modèle sociétal.
Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole ce matin dans Je pense donc j'agis pour témoigner en direct, pour réagir si vous habitez en ville, grande ville ou ville moyenne ou même les bourgs ruraux comme on les appelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un manque de dynamisme? Et ça, qu'est-ce que vous observez vraiment? Comment vous pouvez expliquer ça d'ailleurs dans vos villes? Même question pour les commerçants, tous les commerçants qui nous écoutent, venez témoigner au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec David Lestoux, je rappelle que vous êtes rédacteur d'un rapport national sur les centres-villes qui a donné naissance à ce programme Action Cœur de Ville qu'on évoque depuis le début de cette émission. Vous êtes aussi fondateur d'une agence de centres-villes et du commerce de demain, l'agence qui s'appelle LA, tout simplement. Et puis Sylvie Giberg, avec nous également, vous habitez à Pau, vous êtes commerçante, le gantelet du roi, c'est à Pau, et vous êtes aussi administratrice du collectif des habitants et commerçants de Pau, qui donc s'est montré en réaction à ce manque de dynamisme dans votre ville, que vous expliquiez également, et je voulais qu'on en parle ensemble, Sylvie Giberg, par des, on va dire, peut-être des mauvaises décisions, ça c'est vous qui le dites, de la part de la municipalité, notamment en termes de stationnement et de piétonnisation, qui est venu vraiment, là aussi, changer quelque chose dans le dynamisme.
Oui, alors effectivement, nous avons monté ce collectif. Nous étions un groupe de commerçants très actifs et implantés dans le centre-ville. Et nous sommes tombés d'accord, c'est 2017, nous avons monté ce collectif pour alerter notre municipalité sur la baisse de flux que nous constations dans nos centres-villes. Et 2017, c'était 5 ans après la piétonnisation du centre-ville de Pau. Alors, moi je suis une fan de la piétonnisation. Oui. J'habite en ville, je travaille en ville, je me déplace à pied ou à vélo, je n'ai pas de véhicule. Et je suis commerçante en même temps. Donc j'ai un peu tous les aspects de la problématique. Mais ce que je peux dire, par rapport par exemple à la piétonnisation, c'est qu'à Pau, on a oublié de faire les parkings relais. Et que 12 ans après, on en est toujours là. On a fait une piétonnisation, on a chassé les voitures, tout va bien. Et nos clients, ils viennent comment? Ils font comment? Alors, on dit, il y a des parkings. On a fini par faire un parking relais, mais ça fait 2 ou 3 ans. Alors, on le met gratuit, on l'associe au bus, on le met payant, on le remet gratuit, et ce parking est toujours vide. Donc, c'est pas en claquant du doigt qu'on change les habitudes de consommation. Et donc, effectivement, 5 ans après la piétonnisation, et certainement pour d'autres raisons aussi, pardon, on a constaté ce groupe de commerçants qu'il y avait un manque de flux dans le centre-ville. Nous avons alerté notre municipalité et en collectif, normalement, il s'annule quand le problème est réglé. Et 7 ans après, nous sommes toujours là. Ça veut dire que le problème n'est pas réglé. Exemple, les parkings relais, on n'a toujours pas nos parkings relais remplis. Des parkings qui étaient gratuits deviennent payants,
oui.
Et le coût du stationnement devient trop important.
Ça coûte combien ?
Alors, pardon.
Ça coûte combien ce stationnement, justement ?
Alors, le stationnement, par exemple, en surface, c'est quand on dépasse 4 heures, c'est 17 euros.
Ah oui.
Donc une cliente qui veut faire du shopping, l'après-midi, 17 euros, ça commence à faire, surtout si elle dépasse cet horaire et qu'elle ne sait pas comment se servir de l'application. En plus, elle peut avoir la verbalisation, puisqu'on a ces fameuses voitures LAPI qui verbalisent automatiquement. Alors là, il n'y a plus aucun discernement. Hein.
Oui.
1 minute de dépasser, ça y est, on est verbalisé. Alors on a un parking de proximité, le parking Verdun, qui était gratuit et qui est devenu payant, mais c'est pas très cher, 1 euro, je crois, la demi-journée, 2 euros la journée, c'est pas très cher. Le problème, c'est qu'il y a 1200 places et que sur les 1200 places, il y a 1000 places d'abonnés, c'est-à-dire très peu de places pour nos clients qui sont prises en fin de matinée pour nos clientes qui arrivent vers 11h, 11h30 pour faire une après-midi shopping. On avait un parking gratuit près de la gare également, qui était facilement accessible. Il est devenu payant. Et maintenant, il est vide.
C'est très intéressant. Je note en même temps tout ce que vous dites. David Lestou, je voulais juste vous faire réagir parce que c'est quand même à double tranchant ce qu'on entend à la fois cette volonté de certaines municipalités, et c'est le cas à Pau comme dans d'autres villes, et je pense à la ville de Lyon que je connais bien, où on développe de plus en plus la piétonnisation. Le stationnement coûte de plus en plus cher. Alors évidemment, c'est une volonté pour laisser un peu d'air au poumon des villes. Par contre, est-ce qu'on peut dire que ça a été mal pensé, en tout cas sans penser aux commerçants qui, eux, doivent survivre ?
Je pense qu'il faut qu'on regarde ça en faisant un pas de côté et en remettant ça dans les modes de consommation. Depuis 2017... on a effectivement des villes qui se sont engagées pour plus de piétonnisation, plus de confort, et en même temps, on a eu aussi le développement du commerce digital. Il faut qu'on analyse les vraies causes. Est-ce que la fragilité du commerce qu'on peut noter aujourd'hui, elle est liée à la piétonnisation, ou est-ce qu'elle est liée à l'impact du commerce digital ? J'insiste là-dessus, parce que pendant des années, des décennies, depuis que le commerce existe, dans ses formes modernes, on a toujours eu le complexe du centre-ville face à la périphérie, en disant la périphérie a du stationnement en grande quantité et pas cher, et on souffre d'un déficit de stationnement dans les centres-villes. Bon. Et donc on a mis ça sous l'angle de la praticité, en disant stationnement égale praticité. Mais qu'est-ce qui est plus pratique que tout aujourd'hui pour un consommateur ? C'est de se faire livrer à domicile. Et que finalement, il faut qu'on réinterroge cette question de praticité et de stationnement par rapport à l'avènement du digital. Le sujet d'un centre-ville, ça va être bien évidemment d'être accessible, mais le sujet d'un centre-ville, avant de parler de stationnement, ça va être de se dire comment on va donner envie à un consommateur qui peut commander tout en confort depuis son canapé, de venir dans un lieu de commerce physique. Et donc, c'est aussi ça le changement que l'on a. Et quand je travaille, moi, sur des villes, je travaille à peu près sur une cinquantaine de villes différentes chaque année en France, je note une chose sur des villes sur lesquelles je travaille depuis longtemps. C'est que même si nous n'avons pas eu d'impact sur la gestion du stationnement en cœur de ville, la zone de chalandise du centre-ville s'est réduite, là, depuis 2017 environ, de 15 à 20%. C'est-à-dire qu'il y a 15 à 20% de clients qui habitaient assez loin du centre-ville qui ne viennent plus. Non pas pour des questions de stationnement, mais qui ne viennent plus essentiellement parce que, on ne fait plus 30, 40 minutes de déplacement pour venir faire ces achats. Oui. Et donc, c'est ça qui change. Il faut qu'effectivement, on soit attractif en termes de stationnement, mais il faut bien se dire que ce n'est pas le stationnement qui fera venir en centre-ville, c'est l'expérience client qu'on sera capable aussi de proposer à aujourd'hui un consommateur, c'est-à-dire vous, moi, qui a de multiples propositions marchandes sur son ordinateur ou sur son téléphone.
Et cette expérience client, c'est à qui de réfléchir à ça, à cette expérience ?
Cette expérience client, c'est un travail qui doit être mené à la fois par la collectivité, les commerçants, les acteurs globaux du centre-ville. C'est vraiment un travail collectif qu'il faut imaginer. Et puis, se dire que l'expérience client, ça peut être des rues piétonnes le week-end, mais pas piétonnes la semaine. Moi, je crois beaucoup aussi à la question de la réversibilité de l'espace public et qu'on adapte vraiment l'espace public aux temporalités de vie des usagers. Et qu'on travaille aussi la question de la place de l'enfant dans les centres-villes, qui sont aussi un moteur de fréquentation essentiel. Les pôles de périphérie le travaillent beaucoup. Je trouve que dans les centres-villes, on ne le travaille pas assez et ça participe à l'expérience client aussi.
Alors, je vais aussi faire un petit pas de côté. Je vais faire exprès. Je vais rentrer dans le sujet un peu plus de manière brutale, mais stationnement qui coûte de plus en plus cher, piétonnisation, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie de venir dans certaines villes pour aller consommer. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une volonté de ne pas dynamiser les villes, de se dire, ben non, en fait, les villes, elles ont fait leur temps, et maintenant, ça ne correspond plus du tout aux volontés écologiques qu'il faut qu'on s'impose, David Lestoux.
Alors, cette remarque-là est intéressante. Moi, je la constate pas sur le territoire, sur les territoires. Je travaille tous les jours avec des élus partout en France. Et jamais je n'entends cette logique-là. Je crois qu'au contraire, il y a une forte volonté de dynamiser les centres-villes. Alors, ça c'est très clair. Peut-être qu'effectivement, et je le constate et je le conçois, et c'est des conseils que je peux donner aussi à mes clients collectivités, c'est que sur la question du tarif du stationnement, il faut faire très attention, il faut être capable de le moduler, il faut pas que ça soit un repoussoir. Il faut aussi que les parkings soient attractifs. Ça, c'est aussi une question, la sécurisation du parking, l'éclairage du parking, le confort, quand on y arrive, ça participe à la porte d'entrée de centre-ville. Mais pour répondre à votre question, clairement non. J'entends pas, j'entends dans aucune collectivité cette envie d'imaginer autrement la ville en faisant fi des centres-villes. Clairement non.
Vous êtes d'accord avec David Lestoux, Sylvie Giberg, avec, on imagine, les personnes avec qui vous avez pu échanger au sein du collectif?
Oui, alors effectivement, il y a une volonté, de tous les acteurs, et une prise de conscience, oui. Je crois, depuis le Covid, de redynamiser les centres-villes. Oui. Et je crois que ce qui est important, David Lestoux l'a dit, a parlé de temps long et de volonté politique. Je crois surtout qu'il n'y a pas de, il manque un timing dans tout ça. C'est-à-dire que si vous injectez de l'argent avec les opérations cœur de ville, c'est très bien. Si en même temps, vous continuez à développer les périphéries, c'est-à-dire que nous, on a une agglo qui ne progresse pas au niveau de la population, donc si vous continuez à développer la périphérie, qu'en même temps, vous injectez de l'argent dans le centre-ville, Il y a un petit souci. Après, il y a le côté pratique. Effectivement, si vous injectez toujours cet argent dans les centres-villes, mais que vous augmentez le tarif de stationnement, que vous faites des travaux dans toutes les entrées de la ville, que vous les parkings gratuits, vous les mettez payants, ça donne un mauvais signal.
C'est ça.
Après, il y a toute la dynamique commerciale. Alors, c'est notre travail de commerçant de gérer cette dynamique, d'animer la ville au niveau des commerces. Là, c'est le travail des différentes associations de commerçants pour donner envie aux clients de venir. C'est notre travail à nous en tant que commerçants, mais collectivement, au sein des associations, c'est notre
travail
de donner envie aux clients de venir en centre-ville.
Et on va continuer. On va continuer d'en parler dans un instant. Sylvie Giberg et David Lestoux, on va marquer une pause et ça va vous laisser le temps de nous appeler au 04 72 38 20 23. Venez nous parler du dynamisme des villes dans lesquelles vous habitez. Ça nous intéresse. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Il est 10h30 dans Je pense donc j'agis. Je vous avais la parole pour venir témoigner en direct. Venez nous parler de votre ville. Est-ce que vous constatez un certain manque de dynamisme? Est-ce que ça vous inquiète d'ailleurs pour vraiment la vie dans votre ville? Et puis pareil, si vous êtes commerçant en ville, venez nous dire un petit peu ce que vous en pensez au 04 72 38 20 23.
Je fais des heures sup, les nouvelles du jour ne sont pas bonnes. Guerre à l'est, effet de serre, qualité de l'air dégradé. Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques. Pas assez de richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup, d'amour, d'amour. Se sent à l'heure, il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi, j'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non, n'imagine pas. Dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien. Serré dans les tentes, sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup, d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup.
Le chanteur Raphaël, Heure Sup, pour vous accompagner en ce jeudi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec Sylvie Giberg, je rappelle que vous êtes administratrice du collectif des habitants et commerçants de Pau. Vous êtes vous-même commerçante. Le Gantelet du Roi, c'est votre boutique qui se trouve dans le centre-ville de Pau. À vos côtés, David Lestouge, vous êtes fondateur d'une agence qui s'appelle LA. Et vous avez été rédacteur d'un rapport national sur les centres-villes qui a donné naissance au programme Action Cœur de Ville. Alors j'aimerais justement qu'on entre un petit peu plus dans le détail de ce programme, parce que voilà, on a quand même pris le temps de poser, de faire un état des lieux de la situation des centres-villes en France, même si ce serait long d'entrer vraiment dans le détail. Vous avez un objectif à travers ce programme, c'est vraiment d'essayer, et je l'ai dit tout à l'heure, d'améliorer la condition de vie des habitants des villes. Ça veut dire quoi, améliorer la condition de vie?
Le programme Action Cœur de Ville, il a posé un principe, oui, qui est de dire ce qui est visible dans la dévitalisation du centre-ville, c'est l'apparition de vitrines commerciales vacantes, les fragilités du commerce. Donc il faut agir sur le commerce, mais il faut agir aussi sur globalement l'attractivité du centre-ville. Et puis l'attractivité du centre-ville, moi, dès mon premier bouquin en 2015 sur le sujet, moi je l'ai théorisé en disant un cœur de ville, c'est quatre fonctions. Et donc c'est comme ça que je travaille au quotidien avec les villes de manière pratique. Et Action Cœur de Ville s'est inspiré de cette méthode-là. Ces quatre fonctions, c'est une fonction habitat. Il faut que notre centre-ville soit habité. Donc il faut qu'on ait une diversité de public. Il faut qu'on ait du logement qui réponde aux usages contemporains. Il faut qu'on traite la vacance commerciale, la vacance d'habitat, pardonnez-moi, oui, telle qu'on l'évoquait tout à l'heure. Il y a une deuxième fonction, c'est la fonction service. On vient en centre-ville et on viendra habiter en centre-ville et on se déplacera vers le centre-ville si on conserve en centre-ville les services publics, les services médicaux, qui sont les médiathèques, les services culturels, qui ont eu une tendance aussi un peu à glisser vers les extérieurs. Donc travailler sur la fonction service, et j'insiste beaucoup sur la place du médical dans l'attractivité. Je pense que demain, on se déplacera moins pour le commerce, mais on se déplacera de plus en plus pour le médical qui sera de plus en plus concentré sur les territoires. Troisième fonction, c'est la fonction économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on remette de l'emploi dans les centres-villes. Ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'est de construire des pôles avec des bureaux plutôt à l'extérieur des villes. Et on a aussi beaucoup de bureaux vacants dans les centres-villes. Donc cette fonction et cette économie tertiaire, il faut qu'on puisse la relocaliser. Il faut qu'on puisse relocaliser aussi de l'artisanat. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des gens qui travaillent en cœur de ville. Ça, c'est un élément important. C'est la troisième fonction. Et la quatrième fonction, c'est la fonction identité. C'est la question de l'espace public. C'est la question de la végétalisation d'un centre-ville basse température à l'heure aussi du réchauffement climatique. C'est tout ce qui va faire la vie et tout ce qui va générer une relation affective entre un citoyen, un habitant, un touriste et aussi son centre-ville. Donc Action Cœur de Ville, c'est bien de travailler conjointement sur l'ensemble de ces fonctions pour que finalement on ait des facteurs de commercialité qui permettent au commerce d'être plus attractif véritablement, oui, et d'avoir plus de flux.
Sylvie Gibert, vous avez besoin de quoi en fait, très concrètement, vous ?
Pardon, j'ai pas entendu.
De quoi avez-vous besoin concrètement, vous, en tant que commerçante à Pau ?
Quoi, nous avons besoin de clients.
Oui.
Que les clients puissent venir jusqu'à nos boutiques, un accès facilité. Alors avec différents modes de stationnement, de véhicules ou de déplacement, bien sûr. Nous avons besoin d'une ville jolie, propre. C'est vrai que Pau s'est beaucoup embellie avec l'opération Cœur de Ville. Hein. Oui. On a eu des façades, on a vu l'impact sur les façades, ça devient magnifique maintenant, ces façades qui sont refaites, donc il faut que la ville soit jolie, c'est le cas à Pau. Il faut qu'elle soit rafraîchissante l'été, hein. On a vu des épisodes caniculaires ces derniers étés où vraiment c'était quasi impossible. Alors on dit oui, mais si vous avez la clim, moi on va dire si vous avez la clim, ben c'est bien, les gens ils viennent chez vous. Ben non, parce qu'il faut qu'ils arrivent jusque chez nous, et quand il fait les chaleurs qu'on a eues, donc oui, il faut de la végétalisation, il faut des bancs, il faut des endroits conviviaux pour se poser, pour échanger, pour rencontrer, et puis il faut une dynamique commerciale, hein, c'est-à-dire que tous les acteurs soient dans le même tempo, et c'est peut-être aussi là le problème, c'est que on tire tous dans le même sens et en même temps. Et c'est ce qui fait la dynamique. Moi, j'aime bien citer comme exemple notre voisine Bayonne, qui a réussi à passer toutes les crises et qui a évolué vers un commerce de proximité. Il y a beaucoup d'artisans, beaucoup d'indépendants à Bayonne. Hein, c'est une ville plus petite que Pau et pourtant, il y a beaucoup plus de commerce, beaucoup plus de dynamique commerciale, trois fois moins de vacances commerciales à Bayonne qu'à Pau. Et la recette, c'est quoi ? Ben, c'est une dynamique commerciale avec beaucoup d'indépendants, de choses très différentes, des artisans, des services, qui donnent envie de venir se promener, de faire du shopping en centre-ville. À Pau, on mise plus sur les grandes enseignes, on finance Starbucks, Columbus, It's Salad, on veut des franchisés, mais est-ce qu'on veut faire de cette ville une ville identique à toutes celles qu'on voit partout ? Ça donne pas forcément envie à nos clients de venir s'ils voient toujours les mêmes choses, les mêmes enseignes, les mêmes vitrines. Donc il faut une différenciation et là c'est des choix politiques, c'est une volonté politique, et nous commerçants, ben on subit un peu ça dans notre ville avec effectivement des choix politiques qui sont peut-être pas les bons. Oui. Alors il faut attendre, hein, c'est le temps long dont parlait Pessou tout à l'heure, mais est-ce qu'on aura le temps d'attendre ? Aujourd'hui, ça va très très vite.
Oui. Et il faudrait éviter que tous les commerces mettent la clé sous la porte. David Lestoux, vous disiez tout à l'heure que ça allait prendre du temps, notamment le programme Action Cœur de Ville. C'était pas l'impact n'allait pas arriver tout de suite, que ça pouvait prendre quelques peut-être dizaines d'années. Pourtant, on sent quand même une certaine urgence.
Bien sûr, il y a une urgence. Alors, quand je dis que ça prend du temps, le temps de l'habitat, c'est pas des dizaines d'années. Moi, je vois des plans Action Cœur de Ville qui sont très efficaces en 3, 4, 5 ans. Donc ça, il faut déjà l'intégrer. C'est pas des dizaines d'années. Mais je conçois, et c'est mon quotidien de travailler aussi avec des commerçants, que 3, 4, 5 ans, lorsque vous êtes chef d'entreprise, c'est long. Et que on peut pas attendre 3, 4, 5 ans. C'est pour ça que ce qu'il est important aussi, c'est de travailler sur ce que j'appelle, moi, au quotidien, des victoires rapides, c'est-à-dire des trucs qui peuvent être activés en quelques mois. Je crois beaucoup, par exemple, à la transformation de l'espace public sur de l'urbanisme éphémère. On peut transformer une place qui est uniquement minérale en espace beaucoup plus végétalisé l'été pour apaiser le centre-ville et réagir, comme le disait Sylvie, au réchauffement climatique. On a aussi des actions d'accompagnement à mener auprès des commerçants, du coaching de commerçants, quelquefois des aides au loyer aussi pour les commerçants pour permettre à des nouveaux concepts de s'y implanter. Parce que, sans être trop technique, mais si on regarde les grands domaines d'activité économique qui sont à l'échelle d'un territoire, on est capable, les collectivités, les agglomérations sont capables pour favoriser l'implantation de l'artisanat, favoriser l'implantation de nouvelles entreprises tertiaires, de start-up, de faire des ce qu'on appelle des pépinières d'entreprise, c'est-à-dire des lieux où le chef d'entreprise va pouvoir s'installer avec des loyers réduits. Eh bien, quand on regarde bien, le commerce est l'un des seuls secteurs, si ce n'est le seul secteur, où on n'a pas justement de solution immobilière pour s'implanter, pour implanter une nouvelle entreprise. C'est-à-dire que lorsqu'on est commerçant, on doit immédiatement louer un local, payer un loyer plein pot, si vous me permettez l'expression, payer quelquefois un pas de porte, et ça vient surcharger les premières années de lancement de l'activité. Moi, je milite dans toutes les villes, et au-delà de le militer, c'est ce qu'on met en place, il y a des dispositifs qui existent, type boutique à l'essai, etc., d'avoir finalement un système de pépinière commerciale qui permettent à des entreprises du commerce de s'implanter dans un centre-ville avec des loyers réduits les trois premières années, comme on le fait pour l'artisanat, les start-up, le tertiaire, et puis de lancer l'activité. C'est aussi comme ça qu'on réussira justement à favoriser la réimplantation de commerce. Et ça, c'est des victoires rapides, ça, c'est des choses qui peuvent se faire à court terme. Et puis, il y a un travail aussi de communication important pour les centres-villes. Je pense que les centres-villes n'ont pas saisi suffisamment en matière de commerce les opportunités de la communication digitale. 80% des achats aujourd'hui en France commencent par une recherche soit sur les réseaux sociaux, soit sur Internet. Donc il faut aussi saisir finalement cette notion digitale qui est une nouvelle porte d'entrée du centre-ville.
Oui. Michel nous a rejoint d'ici les Moulineaux, 04 72 38 20 23. Bonjour Michel.
Oui, bonjour Melchior. Écoutez, voilà, je me permettais de témoigner.
Oui.
Puisque nous sommes restaurateurs dans un éco-quartier à ici les Moulineaux. Et en fait, nous attendions ce qu'on appelle le monde d'après, c'est-à-dire des changements de consommation des clients après la Covid, notamment de privilégier les commerces de proximité. Et en fait, on voit que ce monde d'après n'est pas venu et qu'effectivement, le constat qu'on peut dresser, c'est que c'est vraiment lié au mode de consommation, à savoir que les gens privilégient les livraisons, rester chez soi. Et malheureusement, entre guillemets, nous, on n'a pas pris ce parti de travailler avec les majors que sont les grandes plateformes de delivery.
Oui.
Et on travaille avec une plateforme qui n'est pas du tout connue, mais qui a une éthique puisqu'elle fait des livraisons à vélo. Et effectivement, on se prive de cette capacité à attirer des clients à travers ces grandes plateformes. Nonobstant le fait que ces grandes plateformes, si vous n'êtes pas au courant, c'est quand même 30% de commission pour les commerçants. Donc c'est aussi un sujet.
Ouais. Et donc voilà. Vous êtes restaurateur depuis combien d'années, vous, Michel ?
Depuis 2010. 2019. Donc,
ah oui, mon pauvre. Vous n'êtes pas arrivé au bon moment, mais c'est audacieux. Bah, écoutez, merci beaucoup, Michel, d'avoir témoigné ce matin dans Je pense donc j'agis. David Lestoux, qu'est-ce que ça vous évoque, ce témoignage ?
Deux choses. Ça m'évoque effectivement le changement de comportement d'achat qui est majeur, surtout sur la restauration. Oui. La restauration, d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir ce secteur-là. Restauration et bar. C'est le premier secteur en nombre de fermetures de commerce sur l'année 2023. Il y en a 6400, je crois, en France qui ont fermé. Mais c'est en même temps, sur 2023 aussi, le secteur qui a créé le plus d'entreprises. 10400 nouveaux cafés et restaurants qui se sont créés. C'est le signe d'une mutation. Alors, effectivement, avec le fait que l'on souhaite moins sortir et plus manger chez soi, donc la livraison à domicile, donc les plateformes qu'on évoquait tout à l'heure.
C'est ça.
Et puis aussi se dire que dans la restauration, on le voit bien, on mange peut-être de moins en moins à table et on prend de plus en plus à emporter. D'ailleurs, moi, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, c'est-à-dire ce qu'on appelle la street food, la vente à emporter. C'est pas toujours de la mauvaise restauration, c'est pas toujours de la malbouffe. Il faut la qualifier, la travailler. Puis il faut faire aussi en sorte que le centre-ville devienne pique-niquable, parce que plus ça va, moins on a envie de passer du temps longtemps assis au restaurant. Je ne dis pas que tout va disparaître. Il y a des segments très différents. Il faut cultiver la diversité. Mais on voit une vraie tendance, une vraie évolution dans la restauration. Moi, je vois des restaurants bistronomiques, gastronomiques qui font à la fois du service à table, mais qui font aussi de plus en plus de la vente à emporter. Donc, c'est bien ça dans le témoignage de Michel. C'est de se dire que le modèle commercial qu'on connaît depuis 50 ans, il est en train de changer. C'est-à-dire, on a un changement majeur. Et dans une conférence que j'animais dernièrement pour des commerçants, je disais, typiquement sur la restauration, mais pas seulement, tout change. Mais c'est pas grave, parce qu'on a des opportunités nouvelles, mais il va falloir quelquefois réinventer aussi sa manière de fonctionner.
Sylvie Giberg, on a entendu ce témoignage de Michel à l'instant, qui nous parlait aussi du fait que lui, il essaie de lutter un petit peu contre les différentes plateformes qui proposaient de la vente à emporter. Vous luttez également contre le commerce sur Internet. Alors, lutter, c'est un grand terme, attention, mais en tout cas, pour votre commerce, le Gantelet du Roi, vous avez fait le choix de ne rien vendre sur Internet.
Alors, non.
Ah bon. je me suis mal informé, alors.
C'est pas exactement ça. Non, j'ai fait le choix effectivement d'être sur Internet. Moi, ça fait 20 ans que j'ai un site de vente en ligne.
Pardonnez-moi.
Donc, je crois qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout n'est pas négatif, mais franchement, j'ai le sentiment. Enfin, nous, j'essaie de lutter contre les Amazon, Shein, etc. Parce que je considère qu'un produit qui, j'en sais rien, une qui a fait le tour du monde, qui a été confectionné dans des conditions déplorables et surtout pas dans les règles et la réglementation que nous subissons en France, c'est anormal qu'il arrive chez nos clients sans qu'ils soient informés de tout ce parcours et donc moi je suis vraiment opposée à toutes ces plateformes, ces chaînes qui se développent à vitesse grand V, c'est des vrais bulldozers et là le législateur doit protéger les commerçants contre ça. Alors moi j'ai lutté comment ? Ben en ouvrant mon site internet. Voilà. Ouais. On a eu la possibilité avec HAB Arms, ce sont les CCI qui ont fait un gros travail là il y a une vingtaine d'années pour offrir aux commerçants la possibilité d'être présents sur Internet. Donc nous l'avons fait et ensuite nous avons basculé sur notre propre site. Donc c'est un site de vente. C'est surtout un site. Aujourd'hui, un client sur deux a regardé le site avant de venir en boutique. Donc, il est informé sur les produits, etc. Mmh. Et puis, il vient en boutique parce qu'il a besoin du conseil, il a besoin d'essayer, il a besoin de savoir si le produit qu'il a vu est adapté, il veut vérifier la couleur, etc. Donc, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le site au moins vitrine pour un commerçant est indispensable. Et alors, bien évidemment, les réseaux sociaux sont incontournables. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est sur Facebook, Instagram, TikTok. On est très présent, on suit l'évolution de ces réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est un incontournable. Moi, ouais. dans mes collègues que j'ai en France et avec qui je suis en contact, je peux vous dire que ceux qui n'ont pas pris le virage d'Internet il y a 10-15 ans et qui aujourd'hui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ben, ils n'existent plus. Mmh. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous adaptions, nous commerçants, à tous ces changements. Ça va très vite. Moi, je suis toujours en formation. Mes salariés sont en permanence en formation parce que y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a les techniques de vente qui évoluent depuis le Covid. Un client, on ne l'accueille pas du tout de la même façon. Tout a changé. Ça va très, très vite aujourd'hui. Donc, il nous faut, nous, en boutique, être performants sur l'accueil, la vente, le produit que l'on propose.
Et la communication.
Et la communication, voilà. La communication, David en parlait tout à l'heure, la communication au niveau des villes aussi, c'est essentiel. La communication collective, c'est un formidable réseau les réseaux sociaux, c'est gratuit. Et ça a un impact énorme. Aujourd'hui, tout le monde est connecté, tout le monde a son portable à la main. Et même, moi, j'ai une clientèle un peu âgée, hein, avec Facebook, elles sont dessus, elles voient leurs petits-enfants, etc. Ouais. C'est vraiment une évolution qui est
très positive, pour vous, en tout cas.
Ah oui, très positif pour nous, tout à fait.
Et j'avais confondu avec une commerçante que j'avais contactée et qui avait fait le choix, elle, de justement de ne pas ouvrir son commerce sur Internet. David Lestou, on arrive à la fin de cette émission. On constate donc cette transformation totale du mode de commerce, hein, finalement, avec l'aspect de la communication qui devient beaucoup plus important qu'avant. Parce que c'est vrai que si on se replonge, 15-20 ans en arrière, on va en ville et puis on va dans la rue et on tombe sur une boutique, on y va, hop. Ou sinon, c'est quelqu'un qui nous en a parlé. On dit, tiens, tu pourrais aller dans cette boutique, c'est pas mal, ils vendent des choses intéressantes. Là, on est dans une autre modélisation, un autre modèle.
Ouais, complètement. Puis ce qui a changé aussi en 10 ans ou 15 ans, c'est que il y a trois éléments. Sur la décennie qui vient de s'écouler, globalement sur 2010-2020, on n'a jamais construit autant de mètres carrés commerciaux en France, plus 26%, alors que la population a fait plus 3%. Ça nous montre un peu l'écart. Donc ça renvoie à ce que disait Sylvie, la maîtrise de la périphérie, qui est un élément important. Deuxième élément, sur cette période, on n'a jamais construit autant de mètres carrés. On n'a jamais consommé aussi peu dans les mètres carrés qu'on construisait, parce que de plus en plus en digital, plus en plus en commerce de seconde main, oui. etc., qui est souvent en digital aussi d'ailleurs. Et donc finalement, en 10 ans, on est passé d'un rapport où on avait une offre et une demande à peu près à équivalence, à aujourd'hui une offre qui est supérieure à la demande. Donc lorsqu'on est commerçant, et merci Sylvie pour le témoignage, parce que je trouve vraiment excellent, je vous permettrai de vous citer peut-être dans mes conférences et on prendra contact, mais c'est, pour le commerçant, il va falloir passer de cueillette à conquête. Cueillette, c'était finalement, j'ai acheté un fonds de commerce, je suis dans la rue, comme vous venez de le dire, Melchior. On vient chez moi. Conquête, c'est dans un contexte concurrentiel plus difficile, plus relevé, il va falloir que j'adapte ma communication, véritablement. Mais en même temps, c'est pas grave, parce que hier, lorsqu'il fallait communiquer dans le monde d'avant, il fallait acheter de l'espace publicitaire dans le Sud-Ouest, lorsqu'on est à Pau, par exemple, ça coûtait cher. Ça coûte beaucoup moins cher aujourd'hui de communiquer avec les réseaux sociaux, même si ça demande de l'organisation.
Oui, donc une transformation et c'est vraiment intéressant. On a pu mettre en avant énormément de choses. Sylvie Giberg, j'aimerais qu'on parle du samedi parce que vous, c'est très flagrant en tout cas du côté de Pau où normalement vous doublez votre chiffre d'affaires le samedi et là ça devient de plus en plus compliqué. Alors que pourtant c'est un jour où normalement il y a beaucoup de clients.
Oui, alors, le samedi, c'est la journée shopping par excellence.
Oui.
Donc, je suis commerçante depuis 25 ans, donc j'ai vu cette évolution du samedi et particulièrement sur les 5 dernières années, c'est flagrant et ça s'accélère. Ça veut dire quoi? Que se passe-t-il? Le samedi, traditionnellement, on a un chiffre d'affaires qui est à peu près le double d'un chiffre moyen de la semaine. Moi, je travaille du lundi au samedi. Hein. Je travaille 6 jours sur 7 et 7 sur 7 pendant la période des fêtes de Noël. Donc, le samedi, c'est normalement le double d'un chiffre moyen de la semaine. Là, depuis quelques temps, et ça s'accélère, il y a encore 2 ans peut-être, on était content quand on faisait un jour moyen le samedi. Et maintenant, le samedi, ça devient la plus petite journée de la semaine.
C'est
ça
incroyable.
Veut dire que j'entends des commerçants qui me disent « Ah, mais moi, si je dois fermer un jour, c'est le samedi après-midi, j'ai plus personne ». Alors, que se passe-t-il ? Il se passe que nous avons en centre-ville, enfin, je parle de Pau, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais à Pau, mais je pense que c'est un peu identique ailleurs. En semaine, on a la clientèle qui habite, la clientèle de proximité, qui est notre clientèle du quotidien. On a les gens qui travaillent dans le centre-ville. C'est important de ce qu'on en disait tout à l'heure aussi, de relocaliser le centre-ville, l'économie. Et puis, on a les gens qui ont des démarches administratives à faire, qui se font d'ailleurs de plus en plus par Internet aussi.
Ouais.
Et donc,
qui font ça le samedi.
Les jours de semaine, on travaille, je dirais, correctement. Hein, ça évolue normalement. Mais le samedi, les clients ne veulent plus venir en ville. Alors, ils ne viennent plus. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué, parce qu'il faut se garer, parce que la dernière fois que je suis venue, j'ai pris une contravention, parce que je ne trouve plus ce que je cherche.
Parce que j'ai moins de sous aussi.
Exigeants, donc ils veulent tout de suite. Ah ben, vous l'avez pas. Ah, il faut le commander. Ah ben non, voilà. Ouais. Donc, c'est un cercle vicieux qui s'est créé et là, ça devient très très compliqué cette journée de samedi.
David Lestoux, là on parle de Pau, une ville moyenne. Est-ce que c'est le cas également dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille ? Parce que moi j'habite à Lyon, il y a vraiment beaucoup de monde le samedi, et notamment dans les commerces. Donc est-ce que c'est plutôt le cas dans les villes moyennes, cette situation d'après vous ?
C'est une situation globale. Alors elle est moins prégnante dans les métropoles que vous venez de citer parce qu'il y a du monde, mais néanmoins même dans les métropoles, le chiffre d'affaires du samedi a baissé. Hein,
c'est-à-dire
qu'on a eu un report de la consommation. Et par contre, on a vu le vendredi augmenter, le vendredi après-midi, le vendredi fin de journée, le samedi matin. Est devenu un temps plus fort que le samedi après-midi, comme on vient de l'expliquer, parce que très clairement, je crois aussi que dans la nouvelle organisation du temps du consommateur, eh bien le samedi après-midi, c'est devenu un temps de loisir. C'est devenu un temps qu'on va consacrer à ses enfants, qu'on va peut-être consacrer à sa famille. Et donc, c'est une autre relation complètement à la consommation. Hein. C'est-à-dire que là où la consommation pouvait être considérée dans les années 90-2000 comme un loisir, on pouvait avoir du plaisir à aller faire du shopping, le shopping est devenu de plus en plus une contrainte. Et c'est le digital qui a fait ce changement de cap aussi. Véritablement. Et c'est pour ça qu'il va falloir que les centres-villes deviennent des lieux de déambulation, des lieux de destination, quasiment des lieux de loisirs. C'est aussi ça qui fera relancer la fréquentation du samedi et qui permettra que les commerçants viennent se greffer sur ces flux-là. C'est-à-dire que le flux commerçant du samedi après-midi existe de moins en moins. Par contre, il y a un flux qui peut exister en loisirs. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut capitaliser.
Et on aura l'occasion d'en reparler. C'était très intéressant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à Je pense donc j'agis ce matin. David Lestoux, rédacteur du rapport national sur les centres-villes, qui a donné naissance donc à ce programme Action Cœur de Ville. Et vous êtes le fondateur de l'agence LA, à retrouver sur le site internet agence-la.com. Et on mettra le lien sur notre site rcf.fr. Merci David Lestoux d'avoir été avec nous. Merci Sylvie Gibert également pour votre participation, membre du collectif des habitants et commerçants de Pau, à retrouver dans votre groupe Facebook. C'est une page Facebook d'ailleurs, commerçants de Pau. Donc on peut retrouver beaucoup plus d'informations sur notamment toutes vos actions. Et puis rendez-vous sur votre boutique en ligne, leganteletduroi.com. Et puis bien sûr, je m'adresse à tous les habitants de Pau, allez dans cette boutique Le Gantelet du Roi, allez saluer Sylvie. Merci beaucoup à tous les deux, merci à Nicolas, Catherine, à la réalisation également à Baptiste. On se retrouve demain à 9h avec le Presse Club et 10h avec votre émission de jardinage préférée. Prenez-en de la graine, bonne journée à tous.